Bienvenue sur France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Un hommage populaire à Jacques Chirac, décédé hier, sera organisé dimanche aux Invalides. Une journée de deuil national a été décrétée lundi et un service solennel sera rendu ce jour-là dans l'église Saint-Sulpice à Paris. Invité de la rédaction aujourd'hui, Corinne Lepage, présidente du parti Le Rassemblement Citoyen Cap 21 et ancienne ministre de l'Environnement lors du premier mandat de Jacques Chirac à l'Élysée.
À Rouen, au lendemain du spectaculaire incendie de l'usine Lubrizol, si le feu est désormais éteint, les inquiétudes demeurent sur les conséquences sanitaires et écologiques de cet accident industriel.
Le projet de budget pour l'an prochain est présenté depuis ce matin au Conseil des ministres. Un projet qui met notamment l'accent sur les baisses d'impôts pour les ménages. À l'étranger, nous irons tout d'abord en Égypte, où de nouvelles manifestations contre le pouvoir sont attendues aujourd'hui. Et puis aux États-Unis, pour la première fois depuis sa prise de fonction, Donald Trump semble impuissant face aux attaques portées contre lui, y compris par son propre camp. Enfin, à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Comment incarner la nation, cette construction, quand on est écrivain? On va aller à l'intersection, à la jonction entre la littérature et la politique avec notre deuxième invitée, Anne-Marie Thiès, qui signe La Fabrique de l'écrivain national chez Gallimard, et avec Régis Debray, notre premier invité qui reste avec nous pour toute cette grande table du vendredi.
Merci et à tout à l'heure. La France se prépare donc à rendre hommage à Jacques Chirac au lendemain de la mort à 86 ans du cinquième président et dernier grand fauve de la Ve République, homme politique redoutable, sinon impitoyable, mais dont la vitalité semblait aussi alimentée par une bonne humeur et une empathie naturelle, au point qu'à travers le halo funèbre des souvenirs mélancoliques, chacun semble surtout retenir à présent la part d'humanité de celui qui ne fut en réalité jamais plus populaire qu'après la fin de sa très longue carrière politique. Et c'est ainsi que depuis hier soir, dans le vestibule d'honneur du palais de l'Élysée, des centaines de personnes affluent pour rendre hommage à Jacques Chirac en signant les 4 livres d'or mis à disposition jusqu'à dimanche. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour.
Alors depuis hier, on sait qu'une journée de deuil national a été décrétée pour lundi. Et ce matin, on a appris qu'une cérémonie populaire aura lieu dimanche après-midi aux Invalides.
Oui, il y aura d'abord cet hommage populaire aux Invalides dimanche. Il se déroulera vraisemblablement au début d'après-midi aux alentours de 14h. Tous ceux qui le souhaitent pourront venir se recueillir devant le cercueil de l'ancien président. Cet hommage populaire est une volonté de la famille qui souhaite ainsi donner corps au lien, à la relation qu'entretenait Jacques Chirac avec les Français. Le lendemain, vous l'avez dit, lundi a été décrété jour de deuil national par le président de la République. Ainsi que ça avait été le cas pour le général de Gaulle, pour Georges Pompidou et François Mitterrand. Et un hommage lui sera rendu. Alors évidemment pas à Notre-Dame comme ça avait été le cas pour ses prédécesseurs, mais puisque Notre-Dame a été ravagée par un incendie au printemps dernier, mais en l'église Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de Paris, deuxième lieu de culte catholique le plus important à Paris après Notre-Dame. Ensuite, il sera inhumé dans un cadre strictement privé au cimetière Montparnasse, aux côtés de sa fille Laurence, décédée en 2016, conformément aux souhaits de son épouse Bernadette Chirac. Rappelons que d'ici là, les Français qui veulent lui rendre hommage peuvent se rendre au palais de l'Élysée, où des registres de condoléances ont été tout spécialement mis à disposition. Depuis hier, 700 personnes sont allées y apposer leur signature. Et puis il a été décidé que le musée qui porte son nom, le musée Jacques Chirac du Quai Branly, dédié aux arts premiers, restera accessible gratuitement pendant une dizaine de jours.
Voilà, et toujours pour évoquer donc la disparition de Jacques Chirac, je le disais tout à l'heure, invité de la rédaction aujourd'hui, Corinne Lepage, présidente du parti Le Rassemblement Citoyen Cap 21 et ancienne ministre de l'Environnement de 1995 à 1997. Bonjour madame.
Bonjour.
Quel souvenir gardez-vous de votre travail à ses côtés?
D'abord le souvenir de l'homme. C'était quelqu'un de très chaleureux, il avait toujours un mot gentil pour chacun à la sortie du Conseil des ministres. Et c'était vraiment vraiment quelqu'un de très attachant. Bon, alors ensuite sur le travail, vous savez, à l'époque le ministère de l'environnement était un tout petit ministère. Hein. J'avais 400 fonctionnaires en centrale, peut-être 1500 dans toute la France, un budget complètement ridicule. Mais il y a des choses qui intéressaient déjà Jacques Chirac à l'époque. Le littoral. Lorsque j'ai passé, je dirais, mon examen de passage, j'étais déjà nommée ministre, mais mon examen de passage qui a consisté en un déplacement avec lui dans son avion pour aller à Rochefort pour l'anniversaire du Conservatoire du Littoral, après avoir posé un certain nombre de questions, il m'a dit, écoutez, il y a quelque chose auquel on touche pas, c'est la loi littorale. Vous vous débrouillez comme vous voulez, Vous savez, il était très direct. Hein. Vous débrouillez comme vous voulez, je ne veux pas le savoir, mais on ne touche pas à la loi littorale. Or, ça avait une certaine importance, parce qu'à l'époque, il y avait une association qui existe toujours, qui est l'ANEL, qui regroupe les élus du littoral, qui rêvait que d'une chose, c'est fiche en l'air la loi littorale. Rien de nouveau sous le soleil. Voilà, donc ça, ça lui tenait à cœur. Les questions de santé lui tenaient à cœur. Lorsque, à la table du Conseil des ministres, j'ai obtenu le moratoire sur la mise en culture des OGM, c'était quand même pas tout à fait évident. Parce que Jacques Chirac, il était plutôt l'adepte d'une agriculture assez conventionnelle, voire productiviste. Ben, c'est quand même lui qui a tranché avec Alain Juppé pour le moratoire, en ma faveur. Voilà, est-ce donc c'est des exemples.
À l'époque du dérèglement climatique et de la... Alors, de la dégradation de notre environnement.
Bon, à
l'époque, conscience, on en avait.
À l'époque, on en discutait déjà, puisqu'on était dans la préparation, alors pas en 95, mais en 97, du protocole de Kyoto. C'est moi qui ai négocié pour la France ce qu'on appelait le burden sharing, c'est-à-dire le partage du fardeau entre les pays européens pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, on était arrivé à une réduction de 15%, donc en 97, de 15% pour, ça devait être 2000, je suppose. Je ne me souviens plus de la date hein, à laquelle ça correspondait. Et en réalité, après Kyoto, on est passé à 7%. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait ce qu'on pouvait faire, sans des efforts à l'époque, franchement, terribles. Donc il y avait déjà une prise de conscience. Mais il faut se rappeler que en 95, à Genève, lors du premier compte-rendu ou le deuxième du GIEC, on était à 1 degré, 1 degré 5 en 2100. Hein. On n'était pas du tout dans les...
Il n'y avait pas cette conscience de l'urgence, finalement.
Non, bon, on savait que c'était un truc très important, mais l'immense gravité, on ne l'avait pas vraiment mesurée. On savait qu'il fallait agir. La loi sur l'air, c'est une loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie. Donc on savait déjà qu'il fallait faire de l'efficacité énergétique et changer de... passer aux énergies renouvelables. Mais la pression que l'on a, on ne l'avait pas vraiment à cette époque-là. Et je pense que Jacques Chirac était alors encore dans une dimension qu'il caractérise, qui est une dimension humaniste, sur la santé des gens, leur qualité de vie, la manière de vivre, les paysages, l'eau, etc. Pas trop sur les grands enjeux planétaires.
Merci Corinne Lepage. Je précise que vous restez avec nous et que nous continuerons à discuter plus longuement tout à l'heure dérèglement climatique. Dans un climat macroéconomique dégradé mais aussi menacé aujourd'hui par les incertitudes liées aux tensions commerciales qu'au Brexit, le gouvernement présente depuis ce matin au Conseil des ministres un projet de budget 2020 censé se frayer donc un chemin entre ralentissement économique, relance et contraintes européennes. Alors, après un début de quinquennat marqué par des baisses de prélèvements conséquentes pour les entreprises et les investisseurs mais aussi par la contestation des gilets jaunes, ce projet de loi de finances met notamment l'accent sur les baisses d'impôts pour les ménages. Anne-Laure Jimet, bonjour.
Bonjour.
Le gouvernement qui veut convaincre donc les Français qu'il a entendu leurs revendications dévoile depuis ce matin un projet de budget de soutien au pouvoir d'achat.
Oui, avec une baisse de l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros qui entrera en vigueur en janvier prochain. Quasiment tous les contribuables qui payent l'impôt sur le revenu en profiteront puisque 95% d'entre eux sont concernés, même si la baisse sera plus visible pour ceux qui sont dans les premières tranches du barème. Ajoutez à cela une autre mesure décidée pour répondre à la crise des gilets jaunes, la réindexation des pensions de retraite. Pour ceux qui perçoivent moins de 2000 euros par mois, ce qui coûte 1,5 milliard d'euros. Alors la question, c'est bien sûr de savoir comment c'est financé. En avril dernier, le président Macron avait affirmé que ça se ferait par une baisse de la dépense publique, une réduction des niches fiscales des entreprises et un allongement de la durée de cotisation retraite. Alors ce dernier point a été abandonné, trop explosif. La dépense publique, elle, progressera en volume de 0,7%. À noter d'ailleurs que seulement 47 postes seront supprimés dans la fonction publique d'État l'an prochain, si on fait le solde entre les créations et les suppressions de postes. Enfin, côté niche fiscale, les efforts restent encore timides avec une économie de 600 millions d'euros.
Alors quel impact cela a-t-il, Anne-Laure, sur le déficit ?
Eh bien, on a un déficit public un peu plus élevé que prévu, 2,2% du PIB contre un objectif de 2% début avril. C'est un différentiel de 4 milliards d'euros. Mais si ça ne dérape pas plus, c'est que le gouvernement a bénéficié d'une situation exceptionnelle. Les taux négatifs qui lui permettent de gagner de l'argent en empruntant sur les marchés. Ce sont ainsi 5 milliards d'euros qui tombent dans les caisses en 2020. Tiens, 5 milliards, c'est exactement le montant de la baisse de l'impôt sur le revenu.
Merci Anne-Laure Jumest. Aujourd'hui, la date limite de la décision du tribunal de commerce d'Evry sur une éventuelle reprise de la compagnie aérienne Aigle Azur placée en liquidation judiciaire. Et puis s'agissant de XL Airways en redressement judiciaire, la compagnie a jusqu'à demain pour trouver un repreneur. Mais d'ores et déjà, le patron d'Air France a fait savoir ce matin qu'il n'était pas intéressé. À Rouen, le spectaculaire incendie qui s'est déclenché hier dans l'incendie d'une usine chimique Lubrizol est désormais éteint. Précisons tout de suite que la catastrophe industrielle n'a pas fait de victime. En revanche, ce matin encore, une forte odeur d'hydrocarbures persiste dans les rues de la ville et une fumée blanche émane encore de l'usine. Alors les autorités assurent qu'il n'y a pas de toxicité aiguë. Pour autant, les établissements scolaires resteront fermés dans 12 communes de l'agglomération jusqu'à lundi matin. Il est par ailleurs recommandé aux personnes fragiles de rester à l'abri jusqu'à ce soir, mais aussi demander aux agriculteurs de veiller à ce que leurs animaux ne consomment pas d'aliments souillés. Et voilà pourquoi cet accident, le deuxième qui plus est en moins de 7 ans sur le site du groupe, suscite donc désormais indignation et questions. Les précisions de Sophie Bécherel.
Dès hier soir, le préfet annonçait que le résultat des 70 mesures en 26 points était rassurant. Les fumées ne présentent pas de toxicité aiguë, a-t-il déclaré. Mais à cette heure, on ne sait toujours pas précisément ce que la préfecture a mesuré. Or, on ne trouve que ce que l'on cherche. Dès 5 heures du matin hier, cependant, le service qui contrôle la qualité de l'air en Normandie a mis à disposition son matériel et ses agents. Atmo Normandie a fourni des filtres, des jauges, des canisters, ces absorbeurs de gaz, aux pompiers pour qu'ils prélèvent au cœur du panache de fumée. Cette fumée très noir, car il s'agissait d'hydrocarbures. C'est la même chose lorsque des pneus brûlent. Y avait-il des métaux lourds, type cadmium, nickel, des hydrocarbures complexes qui sont cancérigènes, comme les benzo-apyrènes ou les nitro-apyrènes? Il est trop tôt pour le savoir. Les prélèvements vont être envoyés en banlieue parisienne, à l'INERIS, l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques, et ce n'est que la semaine prochaine au mieux qu'on saura la composition très précise des fumées. Quant aux suies, elles sont elles aussi à fuir, d'où l'interdiction de manger les légumes du jardin qui seraient noircis, d'où la nécessité de nettoyer ce week-end les cours d'école. Avaler ou toucher ces suies n'est évidemment pas recommandé, en particulier pour les enfants. Néanmoins, il n'y a pas lieu de paniquer. Les personnes en se calfeutrant se sont protégées. Il est certain que l'odeur actuellement présente à Rouen, de l'œuf pourri en gros, provient non pas des hydrocarbures qui ont brûlé, mais plus vraisemblablement de gaz soufré.
Quand l'Égypte retient son souffle, de nouvelles manifestations sont prévues aujourd'hui contre le président Al-Sisi. Manifestation qui pourrait mettre le feu aux poudres avec le risque d'une répression féroce dans ce pays où toute protestation contre le pouvoir est interdite. La présence policière a d'ailleurs été ostensiblement renforcée dans toutes les grandes villes du pays, en particulier sur la place Tahrir au Caire, épicentre de la révolte populaire de 2011 qui, on s'en souvient, avait chassé le président Moubarak du pouvoir. Frédéric Mettezo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial au Caire. Alors rappelons tout d'abord que le président Al-Sisi, en écartant impitoyablement jusqu'à ce jour toute velléité de contestation, s'est imposé comme l'une des figures les plus autoritaires du Moyen-Orient. C'est ainsi que la semaine dernière, des centaines de personnes sont descendues dans la rue au cri de « Sisi, dégage ». Pour autant, Frédéric, et même si le chef de l'État, comme l'armée d'ailleurs, sont très clairement accusés aujourd'hui de corruption, davantage que la politique, la parole portée par ces manifestants est surtout économique et sociale. Vous nous avez perdu, Frédéric. Est-ce que vous êtes là ?
Je suis là, Thomas.
Je disais que davantage que de la politique, il s'agit surtout d'économie et de social pour tous les manifestants.
Oui, en effet, Thomas, à ce stade, les manifestants n'ont pas de motivation politique ou idéologique, non. Les quelques centaines de personnes, peut-être quelques... De petits milliers qui ont manifesté la semaine dernière l'ont fait pour des raisons économiques et sociales. Selon les statistiques officielles, celles du gouvernement, un tiers des Égyptiens vivent dans la très grande pauvreté. Cela n'arrête pas d'augmenter, tout comme l'inflation galopante. Et les Égyptiens ont été révulsés par ces vidéos de l'entrepreneur Mohamed Ali en Espagne qui montrent les palais du président Sisi. Ce dernier vient de rentrer des Nations Unies à New York. L'agence officielle a diffusé des photos de bains de foule qui n'ont rien de spontané. Lui-même lui-même déclare que tout va bien. Sa réponse au malaise social est policière et politique. Des centaines de personnes ont été arrêtées cette semaine en Égypte, le plus souvent des intellectuels, des figures de l'opposition, voire des anciennes figures de l'appareil d'État, mais aussi des anonymes, des simples citoyens pour un slogan, un tweet ou un message Facebook. L'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir si ces pressions maximales du pouvoir dissuaderont les gens de manifester ou bien si la colère des Égyptiens sera plus forte que leurs craintes.
Merci Frédéric Mettezo en direct du Caire et pardon donc pour cette liaison un brin capricieuse. Qu'il paraît loin le temps où quand Donald Trump promettait à la Corée du Nord la colère comme le monde ne l'a jamais vu jusqu'ici, son homologue autocrate lui promettait en retour rien de moins qu'un déluge de feu. Oubliant sa rhétorique apocalyptique, le régime de Pyongyang a fait ce matin l'éloge de Donald Trump, attribuant au président américain sagesse et courage. Et pendant ce temps, aux États-Unis, le sentiment d'impunité du président ne semble décidément pas avoir de limite. Hier, en dépit de la publication du rapport d'un lanceur d'alerte, duquel il ressort non seulement que Donald Trump a bel et bien sollicité l'ingérence de l'Ukraine dans la présidentielle américaine de 2020, mais aussi que de hauts responsables de la Maison-Blanche ont cherché à verrouiller toutes les archives liées à cette fameuse conversation téléphonique, eh bien, le locataire de la Maison-Blanche a de nouveau contesté toute irrégularité en excellant dans l'un de ses registres favoris, celui de la provocation. En même temps que la victimisation, c'est une honte, les démocrates se conduisent comme des pirates, a notamment éructé hier le milliardaire républicain, visiblement ébranlé parce qu'il qualifie pourtant par ailleurs de blague. Enfin, le locataire de la Maison-Blanche n'a pas hésité non plus à proférer des menaces à peine voilées à l'égard du lanceur d'alerte et de ses informateurs en se montrant nostalgique du sort jadis réservé aux espions. Bref, ou quand le scandale qui secoue désormais la Maison-Blanche se fait chaque jour plus retentissant. De sorte que toute la question aujourd'hui est de savoir si des failles vont finir par apparaître dans le mur républicain qui fait bloc autour du président. Rappelons qu'il suffit que 20 sénateurs républicains seulement lâchent le président pour rendre possible une destitution de Donald Trump. Et en attendant, c'est l'administration de Washington qui semble de plus en plus lassée par les méthodes employées par le chef de l'État. Je vous propose d'écouter l'analyse de Corentin Célin, professeur agrégé d'histoire spécialiste des États-Unis. Il répond à Olivier Poujade.
Ce que révèlent les documents, c'est une bureaucratie de la Maison-Blanche complètement affolée par le comportement du président Trump et qui semble avoir tout fait pour réparer, pour contrôler les dommages des actions impulsives, imprévisibles du président Trump. Et ça corrobore tout ce qu'on pense de cette présidence, c'est-à-dire un président incontrôlable et que sa propre administration essaye de sauver malgré lui. Il y a un vrai problème. Hier, un représentant républicain de l'Ohio l'a dit au Congrès, cette conversation avec Zelensky du président Trump n'est pas bonne. Pourquoi elle n'est pas bonne? Parce que tout simplement, un président des États-Unis a utilisé sa fonction pour essayer de faire enquêter sur son principal rival politique intérieur. Il a donc demandé à une puissance étrangère de l'aider en vue de sa réélection, en utilisant les moyens de sa fonction. C'est donc pas banal et effectivement ça pose un vrai problème d'abus de fonction, sinon d'abus de pouvoir.
Voilà, Corentin Célin, professeur agrégé d'histoire spécialiste des États-Unis, il répondait à Olivier Poujade. Alors à un an maintenant de la présidentielle américaine, il est une variable de la politique de l'administration de Donald Trump qui ne change pas la lutte contre l'immigration. Hier, les États-Unis ont donné un nouveau tour de vis draconien à l'accueil des réfugiés en annonçant leur intention de réduire à 18 000 le plafond du nombre de personnes qu'elle acceptera de prendre en charge au cours de l'année 2020. C'est donc un nouveau plus bas historique. L'an dernier, la limite avait été fixé à 30 000, ce qui constituait déjà jusqu'ici le niveau le plus bas depuis la création en 1980 du programme national d'accueil des réfugiés. Et comme prévu, à présent, nous vous retrouvons donc Corinne Lepage pour évoquer avec vous cette fois-ci la semaine qui vient de s'écouler sur le front du climat, que ce soit à la tribune des Nations Unies ou bien avec le dernier rapport alarmant du GIEC. Et à mes côtés pour vous interroger, Véronique Robérode. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Première question, Madame Lepage. J'évoquais en début de ce journal la présentation du budget 2020. Il en ressort que le ministère des Solidarités et de la Santé va avoir son plafond de dépenses certes augmenté de 1 milliard d'euros, mais perdre 346 postes. Et la transition écologique perd, elle, 1073 postes, tandis que le budget progresse de 12 millions d'euros. Quel signe faut-il y voir, Madame Lepage ?
Écoutez, sans faire de mauvais jeu de mots, je dirais qu'on continue sur la même ligne, c'est-à-dire qu'il y a les actes et puis il y a les paroles. Et comme c'est une paire de ciseaux dont les branches s'écartent de plus en plus, très franchement, ça devient même plus que problématique. Et le sujet, il n'est pas seulement national. Les retours qu'on a de ce qui s'est passé à New York sont quand même pas vraiment à notre avantage. C'est-à-dire qu'il y a eu des grandes envolées lyriques, mais que la France n'a pas proposé un centime ou une mesure de plus que ce qui était déjà prévu. C'est-à-dire, c'est zéro.
Question de Véronique Roberotte.
On va continuer sur l'international. Semaine riche, effectivement, ce rapport du GIEC aussi sur les océans, absolument terrifiant. Sommet de l'ONU sans aucune annonce, vous venez de le dire, bénéfique pour le climat. Intervention aussi à ce sommet de la jeune Greta Thunberg, très remontée, on le voit, très émue aussi contre cette inaction qui perdure malgré les alertes scientifiques. Est-ce qu'il y a un risque quand même que s'installe le fatalisme? C'est-à-dire que ce soit trop tard? Est-ce qu'on est... Ou quand même que...
Écoutez,
fasse bouger les politiques à un moment ou à un autre?
On sait qu'on est mal barré. Mais je dirais que c'est très important d'essayer d'être quand même positif, parce que on peut être plus ou moins mal barré.
Mais qu'est-ce qu'on a vu de positif cette semaine ?
De ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à attendre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir une prise de conscience qui est planétaire, de gens qui, jusqu'à maintenant, appartenaient à des milieux pour lesquels ces sujets étaient quand même quaternaires. Hein. C'était pas vraiment très important. Maintenant, tout le monde se sent concerné. Je veux dire, toute personne qui a des enfants ou des petits-enfants se dit « mais c'est pas possible, quoi, il faut faire quelque chose ». Et donc, je crois qu'il y a une vraie mobilisation qui se met en place. Et l'espoir, il est de ce côté-là, il est du côté du monde économique, qu'il est du côté de la société elle-même, qui finira bien par obliger les États à agir.
Est-ce qu'il faut changer le système? Vous en êtes arrivé à cette conclusion-là? C'est ce qu'on entend maintenant?
Je crois que oui. Je crois que oui, moi, je suis pas...
Mais le système de croissance infinie dans un monde fini, c'est pas possible.
Vous savez, quand vous voyez, par exemple, ce qu'écrit Gaël Giraud, où il vous explique qu'un point de PIB, c'est 0,6 de
produit intérieur brut,
de consommation énergétique. C'est-à-dire que si on fait de la croissance, on peut pas baisser notre consommation énergétique, il y a quand même un problème. Bon, on est dans une quadrature du cercle.
Mais changer le système, c'est changer beaucoup de choses.
Mais oui, mais je crois qu'il faut que nous nous y préparions. Alors, personne ne veut être le premier à le faire, je comprends tout à fait ça. Sauf que plus on attend, plus c'est difficile. Et qu'il y a quand même des opportunités économiques dans la transformation. Et puis il y a quand même des manières de peut-être mieux vivre que nous ne le faisons aujourd'hui. Et puis d'être dans un système peut-être un peu plus respectueux de tout un chacun.
Si on revient sur les jeunes, il y a une plainte qui a été déposée aussi cette semaine devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies contre 5 pays, dont la France. C'est inefficace, comme le pense Emmanuel Macron, ou ça a le mérite de faire parler?
Alors vous allez dire que je plaide pour ma paroisse,
oui,
parce que
avocate,
je suis avocate.
Oui.
Mais je crois que le droit est en train de jouer un rôle extrêmement important au niveau international. Vous savez, il y a 1500 procès de justice climatique dans le monde en cours actuellement, sur tous les continents. On assiste à des choses incroyables. Vous avez un pays comme l'Australie qui, pour rendre une décision de justice, va s'inspirer de ce qu'on fait aux Pays-Bas et de la Convention européenne des droits de l'homme. On sort complètement des sentiers battus et la révolution, elle est en train de se faire là, parce que précisément, il y a une forme d'alliance qui se fait entre la société civile, les trusts d'enfants, les grandes villes.
Et des juges qui ne sont pas hors sol, qui ont leur conviction aussi.
Et des juges qui prennent des décisions qui leur paraissent justes, avec une forme de retour à ce qu'on appelle le droit naturel, c'est-à-dire les droits fondamentaux en réalité, et pour essayer de bouger le système. Et donc moi je crois que ça a une importance. Alors c'est pas un vrai procès, c'est le comité de l'ONU sur les droits de l'enfant, mais enfin ça pose les questions.
On revient au national. Un mot sur l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Les autorités nous disent, on l'a entendu dans le papier tout à l'heure, c'est normal que la population s'inquiète car c'est spectaculaire, mais il n'y a pas de toxicité aiguë, pas de panique, donc dit la préfecture. Mais cette communication qui se veut rassurante, eh bien, les gens n'y croient plus. C'est normal, ils ont été échaudés quelquefois. Et vous, vous y croyez à cette communication?
Vous dites toxicité aiguë.
Aiguë.
Aiguë, peut-être, chronique, je ne suis pas sûre. Donc il faut attendre de voir les analyses. Bon, ceci dit, on ne peut pas non plus dire aux gens évacuez tous, parce qu'on évacue, à ce moment, tout le monde se retrouve sur la route et chacun en prend un peu plus que s'il est confiné chez lui. Donc il y a aussi des logiques de gestion de crise.
Ceci dit, les transports ont été interdits hier à des gens qui ont marché pendant des heures à l'air pur, j'allais dire.
Ben, c'est pas une très bonne idée, je veux dire. Le confinement, dans ces cas-là, est quand même ce qu'il y a de moins mal. Bon, on va attendre de voir. ce que cela va donner. Et il y a des questions à se poser aussi sur le fonctionnement de cette usine, parce que visiblement, ce n'était pas la première fois que quelque chose se passait. Moi, je suis quand même frappée de voir que chez nous, on a quand même tendance à avoir du deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, quand vous avez des petites entreprises qui ne sont pas tout à fait aux normes, elles se font taper. Mais quand vous avez des grosses boîtes qui ont une gestion parfois un peu cow-boy de la législation, on ne dit pas trop de choses.
Juste en un mot, c'est impossible encore à exprimer par les autorités que peut-être il va y avoir un problème, sans même parler de toxicité aiguë, mais justement chronique.
Moi, je crois qu'il faut un langage de vérité. Parce que les gens, ça fait partie de la confiance, et la confiance, c'est le fondement de la démocratie. Vous n'avez plus de confiance, vous n'avez plus de démocratie. Bon, le problème, c'est que les gens sont dans la défiance parce que on leur a raconté des blagues trop souvent.
Merci Corinne Lepage, avocate et présidente, je le rappelle, du parti Le Rassemblement Citoyen Cap 21 d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Véronique Robert-Roth. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Maussade avec un front faiblement pluvieux sur la plupart des régions, à l'exception du quart sud-est du pays où là le soleil se maintiendra malgré quelques bancs de nuages d'altitude. Quant aux températures, elles afficheront entre 17 et 30 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Sophie Delpont pour le prochain journal de la rédaction.